Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, The Swords of Ditto, Frostpunk, Streets of Red, et on finira par Healer's Quest. Petit programme très indé aujourd'hui, cette semaine. Le reste du programme, vous connaissez avec le com des coms, et puis c'est tout d'ailleurs, parce qu'il y a plus trop de reste programme.
C'est pas mal, hein.
Mais oui, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, des Croissants, qui nous accueille. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
On va commencer avec qui ? Avec toi, Patrick, avec un Kickstarter réussi.
Il y a des belles histoires comme ça dans le jeu vidéo. Moi, je suis ravi. C'est Swery, le développeur japonais Swery, qu'on connaît pour Deadly Premonition. Hein, je vous en avais longuement parlé.
Ici, là, dans Silence on Joue.
C'est un des jeux cultes. D4 aussi, dont Dark Dreams Don't Die, qui était sorti sur Xbox One.
C'était moins bien, ça.
Intéressant, quand même. Je crois qu'il tentait des choses. Malheureusement, il n'a jamais pu vraiment le terminer, ce jeu. Il y a eu une première partie de saison, on n'a pas eu la suite. En tout cas, le monsieur, il avait lancé un projet depuis longtemps qui s'appelle The Good Life, qui s'annonce comme un action RPG plutôt intéressant. En tout cas, j'aime bien ce développeur, j'aime bien son univers, j'aime bien, moi je le suis sur Twitter, j'aime bien ce personnage. Et donc, il avait un peu galéré que il avait lancé une première campagne de financement il y a quelques mois, déjà sur Fig, je crois, qui s'était planté, qui n'avait pas fonctionné. Donc, c'était un peu triste, hein, comment il va faire, mais on sentait qu'il avait la volonté de s'accrocher. Il avait même dit donc qu'il a lancé un Kickstarter. Il avait même annoncé que si ce Kickstarter ne marchait pas, il ferait quand même son jeu. On sentait qu'il voulait pas le lâcher. Et ça a fonctionné. Moi, j'y croyais pas trop. Là, à l'heure où on enregistre, il reste 30 heures. En tout cas, c'est fait. Il a atteint son plateau, son objectif de 510 000 euros, je crois.
Ah oui, quand même.
C'était un beau projet. Donc, ça a réussi. Moi, j'y croyais pas trop. Il était un peu en retard ces derniers jours. Bon, Kickstarter, c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ça évolue. On dit toujours c'est les derniers jours, puis finalement là ça a bien boosté sur les dernières non pas sur les derniers jours mais les dernières semaines finalement. Donc c'est très bien. Enfin, il a posté une démo jouable du jeu et ça je crois que ça a joué aussi. Je crois qu'il a aussi adapté sa communication. Il y a des vidéos. On rappelle donc le principe, donc action aventure RPG, on va dire. On incarne une journaliste new-yorkaise qui se retrouve dans une petite bourgade de campagne anglaise.
C'est toujours le mec qui vient de l'extérieur dans un cercle. Enfin, c'était déjà Deadly Premonition, c'était ça.
C'est ça aussi qui faisait la particularité de son jeu. C'est ce côté un peu, voilà, le contraste.
C'est j'arrive à Twin Peaks, quoi.
C'est exactement ça. Donc on arrive à y avoir un meurtre, des choses comme ça. Et puis, quand même, une particularité de cette ville, c'est que, a priori, les habitants se transforment en chat ou en chien la nuit venue. Donc voilà, c'est tout le pitch du jeu. Nous-mêmes, on va pouvoir se transformer comme ça en animal. Donc là, il travaille avec un des créateur de Panzer Dragoon, donc avec son studio White Owls. Et donc c'est une sortie donc qui est prévue sur fin 2019, Q3 je crois. Moi j'attends impatiemment, encore une fois, moi c'est l'auteur qui m'amuse. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ce projet. Il y a des vidéos, hein, il a commenté des vidéos de gameplay sur la page. Démo joie, donc allez-y. En tout cas, je pense que à l'heure où vous écouterez ce podcast, ça sera peut-être terminé. Mais en tout cas, c'est pas fini parce que lui, il annonce que. En tout cas, il a mis un objectif de version Switch à financer. Bon, ouais. Même si ça marche pas, il disait qu'il essaierait de trouver.
800 000, je crois. Hein,
je sais plus à combien. C'est une bonne question. Mais en tout cas, bon, il disait qu'il essaierait de trouver un moyen de le sortir sur Switch. Que, bah, évidemment, ça fait rêver sur ce genre de
quelques-uns,
jeu.
Ouais.
Voilà, j'enchaîne très vite parce que j'avais pas mal de news. La sortie de la manette Duke, la réédition de la Duke. Est-ce que vous savez ce que c'est la Duke?
Je savais pas. Donc tu m'as dit.
Bah oui, on en a parlé un petit peu avant. J'ai un peu spoilé entre nous. Ah, c'est la mythique manette. Alors mythique, pas forcément dans tous les bons sens du terme.
Ah oui, oui.
C'était la manette originale de la Xbox première du nom de 2001. Ouais. Vous vous rappelez de cette énorme manette que Bill Gates avait montré comme ça?
Ah, mais oui!
C'était une énorme manette. Et là, donc, il y a l'accessoiriste Hyperkin qui l'a réédite, en fait, avec. Donc, c'est Seamus Blackley, qui est un des créateurs de la Xbox originale, qui a bossé avec eux pour redesigner une manette qui reprend vraiment un facsimilé de l'accessoire original. Bon, j'ai pas pu la prendre en main. Il y a des vidéos, elle est sortie aux États-Unis. Il a tout
la prendre à deux mains, hein, principalement, vu la taille.
Oui, vu la taille, oui, vu deux voire trois mains. Donc, elle reprend vraiment la taille, le look, la finition a priori est identique. En revanche, il y a quelques petits ajouts, disparitions, les ports cartes mémoire qui étaient devant ont disparu parce que c'est plus trop à la mode.
Ah oui, donc il y a quand même des modifications.
Des modifications. Il y a une prise, comment dire, casque à l'arrière.
Jack.
Et surtout, il y a quand même un écran LCD qui apparaît sur le dessus.
Ah bah, il y a de la place. Hein.
Il y avait cet énorme logo Xbox,
oui.
Mais qui était classe. Moi, je la trouvais belle cette manette. Alors, elle a été beaucoup critiquée. Non, on va en parler maintenant. Il y a prescription. Il y a 20 ans, tout le monde l'a critiqué, cette manette. Alors moi, j'ai jamais eu un vrai problème avec, à part sur le stick, évidemment, la croix qui était un peu bizarre, mais sur des jeux comme Halo, on sentait qu'elle avait vraiment été pensée pour des jeux comme ça.
Ouais.
Alors c'est vrai qu'elle se prêtait pas à tous les jeux, clairement, mais moi j'aimais bien jouer à Halo avec, et d'ailleurs, bon, je pense que pour refaire peut-être Halo donc sur la Xbox One,
d'ailleurs,
ça peut être pas mal.
Il y a eu combien de temps entre cette
très
manette,
rapide.
Cette
en fait,
manette et le redesign
En fait, c'était à la sortie au Japon, je crois que très vite, ils ont compris que ça... Je crois qu'elle est même pas sortie au Japon.
Ah ouais, ouais.
Il me semble que dès que la machine est arrivé là-bas, ils ont dit on redesigne complètement la manette parce que les Japonais ont dit on veut pas de ça ne fonctionne pas. Et donc écran LCD intégré, donc avec le logo Xbox, je sais pas si vous vous rappelez, qui était sous une espèce de verre en plastique. Et maintenant, il y a une petite animation, a priori, j'ai vu ça sur des vidéos, quand on appuie dessus, il y a le logo du boot Xbox. Je sais pas si vous vous rappelez de ce boot grandiloquent, etc.
Ah non, ça
et
c'est
a priori,
360.
C'était une feature qui était prévue à la base sur la première Xbox, qui n'avait pas été faite évidemment pour des questions de coût. Il faut rappeler que la machine était quand même sortie très chère à son lancement.
C'est un peu la version finale. La version
c'est un
rêvée.
Peu ça, et puis quand même pour aller jusqu'au bout du respect original, c'est quand même une manette filaire avec une prise USB, elle est pas sans fil.
Ouais.
Elle est sortie $70 aux États-Unis, a priori elle n'est pas encore prévue pour l'Europe, mais bon, ça peut être intéressant.
C'est plus pour le marché américain.
Bon, moi j'ai encore l'original avec ma Xbox de l'époque,
ça
donc
m'étonne.
ça peut
c'est étonnant.
Ah,
tu gardes des trucs, Patrick.
Oui, je confirme. Allez, dernière petite news, je vais très très vite, donc c'est la confirmation de Shadow of the Tomb Raider, le prochain, qui est donc confirmé pour le 14 septembre, PC, Xbox, PS4. Il va y avoir un sacré challenge. Alors, a priori, on parle de malédiction Maya dans celui-ci. Ça va être un vrai challenge pour ce jeu. Ça va être de rectifier un petit peu de se réaligner avec le carton et ce qu'on nous on avait beaucoup aimé sur le reboot de 2013, qui était pour moi vraiment un grand jeu. On en parle souvent parce que c'est un jeu qui m'a marqué, que je refais régulièrement. À côté, le Rise, qui était sorti quelques années après, était très tiède au final. C'est vrai qu'on n'en garde pas énormément aujourd'hui.
C'était la même chose.
Il n'avait pas apporté grand-chose.
C'était la même chose, mais...
Mais
il ne ressortait que l'aspect ultra bourrin, en fait.
Ouais, il avait pas...
Avec... Tu butais la moitié de la population tibétaine.
Et au final, j'avoue que je garde beaucoup de choses du premier, et je garde beaucoup moins de choses du Rise. Donc là, le but, ça va être de... A priori, ça va fermer ce cycle ouvert en 2013. Le but de ce volume, ça va être de renouer, je pense, avec le côté coup de poing de l'original de 2013.
Bonne chance.
Donc on va suivre ça après.
Bonne chance, Corentin. Côté de Nintendo.
Oui, alors bon, c'est tombé le même jour de l'enregistrement de
la semaine dernière,
donc ça a peut-être un petit peu, ça a eu le temps de retomber un petit peu les news, mais bon, on va en parler quand même. Les très très bons chiffres de Nintendo qui sont donc tombés sur l'année fiscale, puisque l'année fiscale chez Nintendo, comme chez beaucoup de boîtes de jeux vidéo d'ailleurs, s'arrête fin mars, et donc largement dans le vert, mais on s'y attendait, étant donné le succès de la Switch. Donc entre mars 2017 et fin mars 2017, 2018, chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros contre 3,6 l'année qui précédait. Donc la Switch n'avait pas du tout eu le temps encore de s'installer puisqu'elle était sortie début mars. Il y avait eu un mois de Switch.
Ouais, c'est trop. Puis il y avait beaucoup de ruptures au début. Enfin, c'est pas forcément très parlant.
Et ça donne un bénéfice net de 1 milliard d'euros, hein, donc contre 766 millions l'année précédente. Donc on peut dire qu'il y a une belle augmentée. En termes de bénéfice net, on n'a pas vu ça depuis la période Wii, hein, très clairement. Ouais. Donc Nintendo retrouve des niveaux de bénéfices assez dingues. Voilà,
en fait, ils ont à peine eu le temps d'entamer un tout petit peu leur trésor de guerre.
C'est ça. Et encore, je crois pas qu'ils aient perdu d'argent pendant la période Wii U.
Il y avait toujours la 3DS derrière.
C'est ça. Et puis même sur Wii U, les jeux se vendaient quand même. Il y avait des millions de sellers sur Wii U malgré tout. Quoi. Ça nous donne donc 17,79 millions de Switch. Et ça, c'est le même rythme que la PS4 et la Wii, si on regarde les courbes. Donc ça sent très bon, toute cette histoire. Et donc pour l'année prochaine, ils misent, au lieu d'avoir 1 milliard, c'est 1 milliard 2. Attention, ils veulent plus d'argent.
Ils veulent soutenir la tendance. Voilà. Et ils veulent
vendre 20 millions de Switch en plus.
Plus que l'année passée, du coup.
Voilà. Et d'ailleurs, en un an, on a largement dépassé les 14 millions de Wii U. Très, très largement en un an, sur toute la durée de vie de la Wii U.
Ça, c'est fait.
Niveau jeu, ça se porte aussi bien. Il y a 63 millions de jeux qui ont été vendus sur Switch, avec Mario Odyssey en tête, avec 10 millions de ventes de Mario Odyssey.
C'est physique ou
non, c'est cumul, Mario Odyssey a fait plus que Zelda.
Ouais, absolument. C'est pas étonnant. Zelda n'est pas une licence qui vend tant que ça.
En termes d'importance, je me disais que peut-être que Zelda, il y a eu quand même une sorte de bouche à oreille phénoménale
mais
sur
on
Zelda.
On va y venir sur Zelda. Je passe d'abord rapidement sur Mario Kart 8 Deluxe, qui est le deuxième de ce classement et qui a déjà dépassé d'ailleurs la version Wii U. Oui. Ils ont vendu 9,22 millions de versions Switch, alors qu'ils en avaient vendu 8,42 sur Wii U.
C'était bien vendu quand même sur Wii U.
En fait, Nintendo a pas gagné beaucoup d'argent, je suis pas sûr qu'on ait perdu beaucoup.
Ridicule, hein.
Et Zelda, donc troisième, qui est en comptant la version Wii U, donc le jeu était sorti sur les deux consoles, est à plus de 10 millions de ventes. Et ce qui en fait, qui a dépassé donc Twilight Princess, qui était Zelda le plus vendu, donc maintenant Breath of the Wild,
c'est physique et des maths ou c'est tout cumulé ou c'est,
je pense que c'est tout cumulé tout maintenant. Il n'y a plus vraiment de sens à ne pas donner le cumulé. Autre info qui est sortie de ce bilan financier, c'est Tatsumi Kimishima qui s'en va. C'est celui qui avait pris la relève d'Iwata lors de son décès.
Il y avait une photo très festive.
Kimishima, on va dire. Apparemment, c'est un mec très gentil. Tout le monde dit qu'il est très sympa. J'ai regardé sur Google, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé deux photos de lui où il souriait. Il y en a une où il portait un toast, c'était incroyable. Je l'ai vu s'ouvrir, j'ai cru qu'il était malade. Mais bref, ça devait être un président de transition de toute façon.
C'est important. Hein.
Il devait rester un an pour faire en sorte quelque chose. Et finalement, sous son règne, entre guillemets, sous sa direction, les choses se sont bien passées.
Avec un moment important.
Très bon lancement de la Switch, même si Iwata, à mon avis, a dû être très très impliqué dans la mise en place de la Switch. Il est remplacé par Shuntaro Furukawa, qui est un illustre inconnu de 46 ans. Il est chez Nintendo depuis 1994 et il était directeur marketing depuis 2016. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était aussi, il faisait partie du conseil exécutif de la Pokémon Company.
La grande question, c'est est-ce que c'est un maker? Est-ce que c'est à l'origine? Est-ce qu'il est rentré en tant? Est-ce qu'il a participé en tant que?
Je ne pense pas.
Historiquement,
il n'a pas créé, je crois pas non plus.
Iwata incarnait vraiment.
Je suis même pas sûr que Yamauchi. Je crois qu'Iwata était une exception dans le lot. Yamauchi, c'était plutôt un entrepreneur, il me semble.
Complètement. Mais oui, Iwata, c'est quand même un personnage unique, je pense, même dans l'histoire.
Et Quentin.
Je voulais dire ce jeune PDG a pour l'instant un tapis assez rouge
de Pokémon
devant lui.
Non, c'est intéressant, il vient de Pokémon.
Il vient notamment
Pokémon,
Nintendo aussi. Mais de toute façon, Pokémon Company, c'est trois grosses compagnies qui gèrent ça, dont Nintendo. Et donc, il a les Champs-Élysées devant lui pour faire passer Nintendo une très bonne phase avec la Switch qui se vend de toute manière très bien. Et oui, donc un tout petit mot sur Total Biscuit, qui est donc ce YouTuber très controversé, YouTuber critique, streamer, commentateur de StarCraft aussi beaucoup, qui arrêtait de faire des critiques maintenant, et pour une raison simple, c'est qu'il est en train tout simplement de perdre son combat contre son cancer du côlon qu'on sait qu'il a depuis un moment. Je rappelle, John Bain, il est anglais, il a 33 ans, 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, donc conséquent quand même. Disons qu'il fait partie des gros poids lourds du JV sur YouTube, comme des Video Game Donkey ou sur la scène anglaise anglophone plutôt de YouTube. Donc comme on l'a comme je l'ai dit, il a une position extrêmement controversée, notamment pendant le Gamergate, où il était plutôt du côté des Gamergateurs. Donc, il est extrêmement critique des journalistes, mais aussi de ceux qui critiquaient le mouvement des Gamergateurs. Alors que, bon, le Gamergate, c'était quand même un truc ultra critiquable, c'est le moins qu'on puisse dire.
Une saloperie.
Une saloperie. Bon, il n'en reste pas moins que
c'est
ses critiques...
C'est une figure, quoi. C'est une figure.
Il n'en reste pas moins que ses critiques étaient toujours assez pertinentes, quand c'était pas sur les journalistes, mais quand c'était sur les jeux, moi, j'aimais bien avoir son avis, même si j'étais pas toujours d'accord avec lui. Il était notamment très attaché à vérifier que les portages PC ou que les versions PC des jeux étaient bien suivies par les éditeurs et faisaient bien, étaient bien qualitatives. Disons que d'un point de vue consommateur, il était vraiment très pertinent. Et c'est toujours un peu bizarre aujourd'hui de commencer à voir des youtubeurs, et c'est pas le seul, hein. Il y a Jack Roper de Vsauce 3 et là très récemment Simon Gertz qui fait les shitty robots sur d'autres, c'est pas du jeu vidéo, mais qui annonce aussi une tumeur au cerveau. Enfin, on commence à voir des youtubeurs qui ont des cancers et ça fait bizarre, quoi. Et voilà, c'était juste pour signaler ça, et bon, bah on verra ce qui se passe pour la suite, mais
j'espère qu'il fait juste une
a priori
une pause.
Sa copine bah une pause, là c'est a priori signé, hein. La chimio marche plus, ça va pas tarder, mais par contre le quand même le bon point, si on peut appeler ça un bon point, c'est que sa copine, qui est également assez impliquée dans toutes les créations de Total Biscuit, va a priori continuer certaines des émissions, notamment le podcast, je crois qu'elle va continuer. Voilà.
Ok.
Le petit mot là-dessus.
Bon, bah moi je vais faire la transition, hein.
Très bien.
C'est toujours
bah,
hyper facile.
Après ça,
je vais juste parler parce qu'il semblerait, mais d'après mes informations, que vous soyez encore quelques-uns à nous écouter et à pas encore avoir joué à Slay the Spire, ce qui est quand même un gros problème.
C'est, pour moi,
je sais pas. J'en suis. Hein.
Patrick, bah,
on va faire une grève, Erwan, je crois. On
voilà.
Va faire une grève.
Bon,
hein.
On se retrouve la semaine prochaine. donc, juste pour dire que ce jeu de Megacrit, du studio Megacrit, est toujours exceptionnel. Il est toujours en Early Access. Et en fait, la promesse avant la sortie de l'Early Access, c'était de sortir le troisième personnage. Le troisième personnage, alors, moi, ça m'a fait rire parce que pour tester le troisième personnage, il faut tester la version bêta d'une Early Access. Parce qu'on est quand même dans le test du test.
C'est un peu hipster, hein, quand même. Là.
Mais... Ah oui, mais alors quand on est accro quand même et qu'on voit ce nouveau perso, alors c'est assez marrant parce que donc il s'appelle le défectueux. Alors il accompagne donc ces deux petits camarades, Iron Cloud et Silent. Un qui est guerrier taunt et l'autre qui est poison assassin, on va dire. Et là en fait on a affaire à un robot défectueux, hein, donc comme son nom l'indique, et qui va manipuler des orbes. Alors ce qui est super intéressant, c'est que c'est un changement total de gameplay par rapport aux deux autres personnages qui sont finalement, par rapport à ce qu'on nous propose là, les deux autres semblent relativement proches, alors qu'ils étaient très très différents. Et en fait, là, avec un système d'orbe qu'on canalise et qu'on déclenche, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment une version bêta d'un Early Access, et donc en fait, on peut tester des cartes qui n'ont pas le design définitif avec un gros bêta marqué dessus.
Avec des placeholders, en fait.
On sent complètement que l'équilibrage est à la rue, mais complet. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des cartes qui sont trop majeures, qui sont trop indispensables, d'autres qui ne servent à rien. Un personnage qui est encore trop orienté sur certaines mécaniques de jeu et pas sur d'autres. Donc et en fait, c'est assez intéressant. J'avais lu une interview, notamment d'un des deux cofondateurs, enfin d'un des deux développeurs, parce qu'ils sont deux, hein, à Megacrit, qui avait parlé toute une interview sur l'équilibrage, et il avait dit on a passé beaucoup de temps de développement à faire un truc de feedback, c'est-à-dire avoir le feedback des statistiques sur les utilisateurs. Et pour équilibrer le jeu en temps réel, pour pouvoir
mais
le faire.
Ça sent, hein. Ça sent, il y a des pouvoirs, il y a des cartes qui changent.
Qui changent totalement.
Notamment, hein. Moi, je joue la silencieuse, il y a des cartes qui ont. Enfin, genre, le coup a doublé, ou alors l'effet a complètement changé.
Race.
Exactement, exactement. Mais ça, j'aimais mieux l'autre, mais bon, c'est pas grave.
Mais en fait, c'est pour dire que c'est un jeu qui. Alors, il était déjà excellent, mais il y a une mise à jour par semaine, ils sont ultra réguliers. et on voit, en fait, c'est ce troisième personnage, je voulais en parler. Parce que, bon, d'une part, c'est rigolo et c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais en fait, on est vraiment dans ce que l'Early Access est censé être. C'est-à-dire, le jeu n'est pas fini, il est en cours d'amélioration et on demande aux joueurs de nous aider à le finir. Et on est vraiment dans cette démarche-là et c'est super agréable. Et juste pour dire que j'ai été assez étonné, on a parlé il y a quelques temps, notamment à propos de d'autres jeux, des nombres de ventes, Steam et tout ça. Slay the Spire a très bien marché. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas un jeu avec recette addictive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revenir revenir tous les jours pour ouvrir un coffre ou ce genre de choses. Mais il est encore très joué, notamment parce qu'il y a un mode de challenge journalier qui est sorti. Alors, c'est juste un changement de règles. Et,
c'est des daily runs.
Voilà, c'est des daily runs, mais il n'y a pas de rien à gagner. Hein. C'est juste pour... ils changent un tout petit peu le gameplay et les règles pour, ouais. Pour faire un truc rigolo ça chaque jour.
Ouais, je me rappelle, beaucoup de gens qui jouent à Slay the Spire me parlent de cette règle où chaque monstre te donne une relique et ça devient n'importe quoi.
Oui, voilà, mais c'est ce genre de système. Et en fait, moi, je suis assez étonné parce que je l'ai fini à peu pas tous les jours, mais quasi.
Mais je te voyais jouer tous les jours, moi, quasiment. Bah, oui, dès que j'ouvre Steam, c'est Erwan joue à Slay the Spire. Ok, d'accord.
Mais je suis en vacances cette semaine aussi. mais même quand je suis pas en vacances, c'est pas faux. Mais bon, bref. Et juste pour dire que quand on arrive dans le classement final, moi, j'arrive régulièrement. Alors que j'arrive au bout, j'arrive dans les 11 000, 12 000, 13 millième place. Ça veut dire que pour un jeu solo comme ça, enfin, il arrive à capter et à garder les joueurs. Alors, c'est assez étonnant.
Moi, je suis un peu extérieur à ce phénomène, comme vous auriez pu le comprendre. Moi, là, pour jouer à cette version, c'est une version ultérieure, c'est ça ? Ancienne, c'est ça ? C'est une
non,
version
alors c'est, là, elle est en early
antérieure,
access.
Pardon ?
Non, c'est pas une version. C'est que quand dans Steam, tu peux activer une fonction bêta.
D'accord. Ouais.
Et donc, en fait, tu accèdes
à
une version de travail de
ton
early
access. Ça va être intéressant. Je veux dire, les mecs dans 20 ans qui vont étudier l'histoire des jeux vidéo, qui vont justement se pencher sur un titre comme ça, ça va être intéressant aussi de réfléchir à ce qu'était une version bêta de ce jeu à tel moment, comment il a évolué au bout de 6 mois, 1 an.
Ah, mais c'est
intéressant ce que
Je trouve ce jeu est un cas d'école de travail en commun entre la communauté et les développeurs.
De bonne early access, en fait.
Ouais, de très bonne early access. Bref, je vous en reparlerai sans doute un jour. Hein, quand il sortira d'early access, ça fera une bonne raison. Avant de commencer ce programme, au bout de 16 minutes de podcast, le comme des comme de la semaine dernière.
20 minutes.
Ah oui, 20 minutes, oh là là, on va jamais y arriver. Bref, on commence avec Jérémy Israël qui nous parle de God of War. God of War commence de manière linéaire, une application parfaite de la recette Naughty Dog, et puis s'ouvre et grandit latéralement. Je ne trouve pas que le jeu soit facile en soi, mais il est en effet le contraire d'un Dark Souls. Il prend la main de bout en bout, c'est un long tutoriel, un voyage qu'on peut parcourir en regardant par la fenêtre. Ce qu'il y a de véritablement surprenant, c'est le crescendo initiatique qui est parfaitement en phase avec la compréhension graduelle que l'on acquiert du jeu. À chaque palier, on se sent en position de faire des choix qui nous sont proposés et qui rajoutent au plaisir de découvrir ce que le gameplay offre de nouveau. Le déplacement sur la map, la prise de risque dans les combats, les nouvelles combos disponibles, l'allocation des upgrades de l'équipement, l'arbre de compétences, etc. Je n'ai jamais expérimenté une telle synergie entre l'interactivité qui se développe et la maturité croissante du joueur.
C'est bien dit.
Exactement. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce commentaire, Jérémy. Enfin, je ne suis pas un robot qui nous parle de Nintendo Labo et de la capacité, j'avais parlé du lab, hein, de développer ses propres applications. Et lui, il explique que les créations garage commencent à arriver. C'est dommage que Nintendo n'ait pas un site pour les rassembler et générer une communauté. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas. Et il rajoute dans un autre post, de ce que j'ai pu lire, je n'ai vu nulle option de sharing, de partage. Donc, compliqué aussi, vu le risque que des créations ne soient pas convenables pour les enfants, qui sont la cible principale. Bon, il y aurait pu avoir un indicateur. Hein, D'ailleurs, la Switch est équipée d'un très bon contrôle parental, par ailleurs. Donc,
oui,
ça aurait été possible.
Avec une companion app assez dingue.
Ça me rappelle Super Mario Maker, quand les web, quand des sites de recherche de niveau se sont créés pour pallier aux manques initiaux de Nintendo.
Mais ça s'est arrangé, donc il y a de l'espoir. Ouais. Genre sur Mario Maker, ils ont fait un site assez bien branlé de recherche de niveau directement sur ton navigateur où tu peux les rajouter sur ta playlist sur ton jeu. C'était plutôt bien fait. Il y a peut-être ça va arriver pour Nintendo Labo, quelque chose d'un peu communautaire.
Si le truc marche bien, je pense. Néanmoins, cette approche Maker est fantastique et je vais guetter les idées que les gens auront. J'attends aussi de voir les propositions hybrides avec des cartons incluant capteurs, Arduino, ou Arduino, c'est le petit processeur hein, qui est programmable, et d'autres armes de Maker. Nintendo a créé une nouvelle plateforme de création combinant software et hardware, un vrai coup de génie et super accessible pour les enfants. Patrick a raison de mentionner que ce sera culte dans 15 ans. Voilà, c'est fini pour le Comme des Coms, donc avec très en retard. Non, on est très en retard. C'est le plaisir de retrouver l'audio qui nous fait un peu déborder de nos carcans habituels. On va commencer le programme avec The Swords of Ditto.
Thank you.
The Swords of Ditto, édité par Devolver, qui est donc, on le sait, maintenant autant un éditeur qu'une marque de fabrique, qu'un label, voilà. The Swords of Ditto, qui est alors du studio One Bit Beyond, de Jonathan Biddle à la tête. Alors je sais pas s'il est tout seul ou pas Réal, mais
La Réal, je sais pas, mais il est pas tout seul, ça c'est sûr.
Bon, en tout cas, il a beaucoup de rôles dans ce studio, et voilà, The Swords of Ditto, comme aucun jeu auparavant. On se réveille sur la plage, on ne se souvient de rien. Et il y a une bestiole.
On ne se réveille pas sur la plage dans Sword of Ditto.
Bah si, le début.
Ah, c'est au tout début.
Tout début.
On recommence tellement le jeu en même temps que après tu travailles dans ton lit.
On fait qu'une fois ça.
Non, mais c'est ça. Mais je raconte le début. Tu sais, parce qu'au-delà du début, on spoil. Donc je raconte le début. Et une petite bestiole nous indique la direction à prendre. Et il va falloir découvrir une épée. Et qui s'appelle quoi? The Swords of Ditto. The Sword of Ditto. Donc tu vas nous en parler, Corentin.
Oui, donc Sword of Ditto, décidément, hein, on en aura parlé de jeux vus du dessus à la Zelda 2D limité dans le temps. Décidément, voilà, entre Minit et ça, on est servi en ce moment.
Yep.
Donc voilà, on est dans un jeu qui à première vue, enfin, je sais pas si vous avez fait, mais je pense que ça le fera à tout le monde, où on se dit. Oh, c'est beau.
Eh, mais c'est
qu'est-ce que
c'est
beau.
Non, mais on va juste faire une pause là-dessus parce que on en reviendra peut-être pas. Mais
ouais, parce qu'après ça va être moins bien.
en termes design cartoon. Ultra moderne.
Ouais.
Non, mais parce que c'est pas du vieux
c'est
cartoon.
C'est pas du pixel art. Hein.
C'est alors, pas du pixel
c'est
art.
Pas pixel art hein.
C'est d'une beauté incroyable. Ça m'a rappelé quelques dessins animés dont je n'ai pas pu localiser les références exactes.
Les
mais...
grosses références, c'est certainement Adventure Time. Donc tout ce qui est Cartoon Network, nouvelle génération.
Exactement,
on va dire.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et oui, ça marche. Mais c'est fou comme
c'est
ça marche.
C'est coloré,
quoi.
C'est super bien animé.
C'est dans tous les sens.
Tout fonctionne.
Il y a une espèce de volumétrie dessinée qui est très bien faite.
Et les musiques.
De toute façon, la direction artistique,
sont fabuleuses.
C'est ce qu'il y a de plus réussi dans Swords of Ditto. Les personnages
si vous voulez savoir, moi, j'en ferais bien un fond d'écran de Swords of Ditto.
Alors, je crois que ma copine qui adore Swords of Ditto, parce qu'on y joue ensemble, on peut y jouer en coop, a déjà fait des captures d'écran pour s'en faire des fonds d'écran de téléphone portable. Ça marche bien.
Ça m'étonne. Et moi, c'est la musique.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai laissé la bécane tourner pour la musique.
Non, en fait, je cherchais pas un fond d'écran, un économiseur d'écran animé.
Tu sais,
le genre de truc qui se lance et puis t'as le monde qui
s'anime,
qui vit sur ton écran, voilà.
Donc voilà, bon, s'il y a bien une chose qui est réussie dans Swords of Ditto, c'est la DA, hein, elle est vraiment magnifique, que ça soit donc, comme on l'a dit, dans les graphismes, dans la musique, tu l'as dit Patrick,
ouais,
c'est des petites musiques toutes mignonnes, et encore une fois, on est à fond dans du Cartoon Network en ce moment là, c'est ce qu'ils font en ce moment, tu vois.
Genre Scooby-Doo et tout ça, enfin,
bah,
pas
genre
quand même,
tout ce qui est Steven Universe, Adventure Time, voilà, même au niveau de la musique, ça y ressemble énormément, donc c'est à base de...
Ah, les couleurs, tout ça.
De petits instruments, un peu comme si on avait fait un... Voilà,
c'est minimaliste, mais c'est fouillé.
C'est enfantin,
enfin,
c'est cherché, c'est fichu, travaillé. Ouais. On a des petits... c'est un mélange entre musique rétro et vrais instruments. Notamment, il y a une grosse part qui est laissée au kazoo, parce que notamment, le kazoo est le moyen de transport de ce jeu. C'est-à-dire qu'on souffle dans son kazoo, il y a un bus magique qui arrive pour vous récupérer, vous emmener un peu partout sur l'île. Et donc, on arrive dans cet univers très coloré, et on vous dit, hep, viens, on va te montrer, parce qu'il y a une épée à récupérer, il y a une sorcière à tuer. Bon, et ben c'est parti. On prend l'épée et on se retrouve donc dans un Zelda-like 2D vu du dessus. On peut couper des herbes, trouver des pièces dedans. Il y a des gens, des magasins. On trouve une tour dans laquelle il y a la sorcière. On monte en haut de la tour et je pense qu'on peut spoiler ça parce que sinon
on meurt
immédiatement. Donc la sorcière, en fait, c'est inévitable. Dans une cinématique, vous transperce d'un pilier d'épines.
Je trouvais ça très brutal.
Je crois que c'est pas, il y a pas déjà une discussion un peu méta avec non, c'est pas ce moment-là où on commence à dire pourquoi tu l'as amené
c'est
là.
C'est plus
machin,
tard.
C'est après.
C'est genre,
tu
fais pas comme la première fois. Hein,
d'accord. Ouais, je crois que c'était tout de suite. Non, c'est plus tard. Ok.
Et donc on se réveille, on n'incarne plus le même personnage, mais c'est 100 ans plus tard. Donc la sorcière a eu le temps de régner pendant une centaine d'années sur l'île. L'île qui a d'ailleurs tout à fait changé, hein, puisque 100 ans se sont déroulés. Donc la disposition des bâtiments, la disposition des lieux ont changé. Et donc on retourne pour, enfin on doit tuer cette sorcière qui a vécu pendant 100 ans sur l'île, laissant le village dans un état de décrépitude absolument visible. Et donc pour ce faire, il faut arriver au bout de 4 donjons en fait à chaque fois. Alors, donc c'est deux successions de 2 donjons. D'abord un donjon pour récupérer un objet, puis le donjon dans lequel on va utiliser l'objet pour casser ce qu'on appelle une ancre. En fait, ça va permettre permettre de d'affaiblir le boss final qui est la sorcière. Puis on recommence un deuxième donjon avec un objet, puis un deuxième donjon avec une autre encre, avec le, il faudra l'objet du troisième donjon pour le réussir. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est techniquement prêt, enfin on a maximisé nos chances pour vaincre la sorcière qui aura moins de pouvoir. En l'occurrence, j'ai pu essayer une fois en ne cassant qu'une seule encre, et j'expliquerai pourquoi plus tard, et c'est un vrai problème, mais je n'ai pu casser qu'une seule encre, alors que j'avais tout le temps de casser l'autre encre, mais ça m'énerve, je vais en parler. voilà, donc en fait, en effet, oui, c'est beaucoup plus dur parce que on vous envoie notamment des doubles maléfiques, ce qui est l'équivalent de boss dans le jeu. Les personnages, il y a beaucoup plus d'ennemis, on perd beaucoup plus de vie, c'est plus compliqué, c'est vraiment plus hardcore quand on n'a pas cassé les encres, donc c'est vraiment conseillé de le faire. Mais finalement, c'est un peu la même chose que dans Zelda Breath of the Wild, où finalement on peut aller se friter à Ganon tout de suite. Oui. Le fait de faire les donjons, en fait, vous donne des avantages considérables pour le boss final. Et donc voilà le principe, sachant que l'île, elle est générée de manière procédurale. Ouais. Et donc, les emplacements des donjons, les emplacements des différents lieux d'intérêt sur la carte changent à tout chaque personnage, tous les 100 ans en fait. D'ailleurs, le village aussi change complètement de disposition, tout change. Sachant que sur la carte n'est indiqué grosso modo que le village, notre maison, éventuellement le cimetière et la tour de Mormo, la sorcière. Et donc, techniquement, je pense que ce qu'a cherché à faire One Bit Beyond, c'est de faire une espèce de générateur de Zelda à l'infini, oui, comme ça, pour qu'on ait une aventure à chaque fois, sachant qu'il y a un pool d'objets que le jeu va piocher pour faire des donjons différents. Les donjons aussi sont générés de manière procédurale. Évidemment, il y a tout un système pour que ça soit pas bloquant, qui est censé fonctionner. Donc on arrive dans un donjon. Normalement, on ne connaît pas le donjon. Évidemment, l'intelligence des énigmes qui sont proposées, c'est la limite avec le procédural. C'est que c'est moins intéressant. C'est pas designé par un humain. Il n'y a pas vraiment de level designer. Il y a plus un algorithme designer cumulé avec un level designer, ce qui fait que les donjons manquent d'âme, forcément, mais techniquement, il y en a une infinité. Donc, c'est censé être la force de Sword of Ditto. Et on va s'amuser à aller battre la sorcière, et donc on va débloquer 100 ans de bonheur sur l'île. Et en effet, on va voir les effets sur l'île. Les gens seront plus heureux, le village sera en bon état, il y aura une statue dans laquelle on pourra se soigner. Il y a plusieurs éléments de gameplay qui changent, notamment quand on a eu 100 ans de désespoir, on trouve de la nourriture dans les herbes, alors que quand on a battu, c'est plus dur, il n'y a pas de nourriture dans les herbes, par contre on peut se soigner en ville, tout ça. Maintenant on va arriver au défaut de Swords of Ditto. Et en fait c'est ce que j'ai dit, c'est que le jeu en fait a un objectif, c'est faire un Zelda infini auquel on pourrait rejouer, on s'amuserait toujours. Sauf que si Zelda marche aussi bien, et ce qui fait la force des Zelda ou des jeux du même type, c'est le dungeon design, justement. C'est le fait que...
La patte du game designer, du level designer.
Voilà,
du...
c'est ça. Donc, j'en parle... Je crois qu'il n'y a pas un épisode où j'en parle pas, mais Mark Brown a fait une super série sur comment les donjons de Zelda sont designés et sont faits pour vous embrigader dans des... Enfin, normalement, un labyrinthe, c'est pas plus intéressant que ça à résoudre, mais dans Zelda, on s'amuse vraiment à faire les donjons. Sauf que voilà, dans Swords...
Une sorte de magie, en tout cas, sauf à se renseigner sur les principes de game design et de level design qui sont derrière, mais c'est vrai que en tant que joueur, on ressent ce plaisir-là. On sait que ça vient de quelque part, mais on dit ça vient pas de ce labyrinthe. Mais
hasard.
Si, ça vient de ce labyrinthe, ça vient de cette pièce qui est conçue d'une certaine manière, de ce donjon qui est conçu d'une certaine manière. Qui nous guide sans le dire, mais on n'arrive pas. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'arrive pas à localiser cette source de plaisir, mais elle est travaillée.
C'est une signature.
Et donc dans Swords of Ditto, on enchaîne un peu les donjons, l'exploration, mais ça manque un peu de saveur quoi dans l'ensemble. Il y a pas assez de diversité en fait entre les runs, puisqu'en réalité, donc ce jeu, vous l'aurez certainement compris maintenant, c'est un roguelike. En fait, à chaque fois qu'on meurt, on revient dans son lit, on incarne un autre personnage. Il ne garde rien de l'ancien personnage, si ce n'est l'expérience, l'argent, et enfin il y a plusieurs monnaies dans le jeu, donc les deux monnaies différentes et l'expérience. Le leveling ne sert pas à grand chose, honnêtement. J'ai pas trop compris à quoi il sert, c'est à dire que les ennemis prennent littéralement les niveaux en même temps que vous, donc à quoi ça sert. Je sais pas trop. Le jeu vous force à leveler en plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a les donjons ne s'ouvrent que si vous avez pris certains niveaux d'expérience, donc finalement on vous force à grinder dans l'univers. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai compris comment on finit le jeu, parce que quand vous finissez le jeu, vous recommencez en fait. Donc comment on finit vraiment le jeu, c'est une des questions que vous allez devoir répondre sur vos édito, une des énigmes. Je vais pas vous donner la réponse là, mais ça implique de finir le jeu plusieurs fois d'affilée en faisant certaines actions, évidemment, un peu comme dans un Spelunky, pour aller dans le monde, pour aller en enfer, il faut faire certaines actions dans un certain ordre pour réussir. Ici, non seulement l'action en question n'est pas très intéressante, elle n'est pas particulièrement logique, rien ne vous indique vraiment qu'il faille le faire, à moins qu'il faille lire dans les pavés de texte immenses qu'on vous donne à lire dans des coffres, ce qui n'est pas non plus ultra passionnant. On sent qu'il y a un lore d'ailleurs, il y a une tentative de lore qui est faite, qui peut être intéressante. Moi, je commençais à m'intéresser et tout, mais au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. C'est que du texte, il y a rarement des moments où on a des preuves dans le vrai monde. Par exemple, il n'y a pas de narration environnementale, vraiment, quoi. Et donc, c'est embêtant parce que du coup, t'as l'impression qu'on te raconte une histoire qui est complètement déconnectée de ce que t'es en train de faire dans le jeu.
Il y a un truc, en tout cas, bon, j'ai pas autant joué que toi, mais il y a quelque chose que j'ai tout de suite ressenti. Dans l'aspect roguelike procédural, ça m'a rappelé, enfin, dans les types de Zelda roguelike procédural, enfin, il y avait Binding of Isaac, finalement. Ouais.
Exactement.
Sauf que là, le Binding of Isaac, on est que dans un donjon.
Il n'y a pas
d'exploration. Mais quelque part, Binding of Isaac compensait ce qu'on disait tout à l'heure sur le design des donjons, compensait l'aspect procédural par l'aspect complètement taré, complètement fou, complètement.
Le design, le look.
Hystérique over the top, exactement.
Oui, savait,
donc on... ça compensait l'aspect procédural, c'est-à-dire que oui, c'est procédural, mais on va vous en mettre tellement plein la vue, on va tellement tout changer à chaque fois en fonction des objets, en fonction des ennemis, en fonction des ça va tellement être n'importe quoi que finalement, bah, même si c'est procédural, c'est pas grave.
Ouais, puis il y a une sacrée pêche quand même.
On est en dessous, il n'y a pas cette folie, et finalement donc l'aspect procédural n'est compensé par rien, et c'est ça pour moi qui a été un peu
En fait, dans Binding of Isaac, au bout d'un moment, il y a une montée en puissance qui fait qu'on prend vraiment du plaisir. Dans Sword of Ditto, il n'y a pas cette montée en puissance, ou très peu. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 objets, ou 2-3 objets, mais qui sont pétés, mais littéralement pétés. Il y a un problème d'équilibrage. C'est-à-dire que, je vous le dis, si vous trouvez le laser, mais c'est bon, vous avez réussi votre run. Il est pété, le laser. Vous lui mettez un élément feu et c'est bon, vous avez gagné. Vous spammez le laser, vous avez gagné. Pareil, il y a le pied d'Yeti qui est absolument craqué, qui fait une zone d'effet juste devant vous, qui assomme tous les ennemis sur place, donc vous êtes tranquille pour un moment. Il y a un manque de feedback au niveau des coups qu'on donne. On peut débloquer des attaques spéciales, mais elles ne servent à rien, à part l'attaque chargée qui est utile, mais sinon les autres ne servent à rien, parce que c'est impossible de placer un coup chargé sans qu'un ennemi vous attaque, et la vie est une ressource qui peut être assez rare dans Swords of Ditto. Je pense qu'il y a un manque de pêche générale, un manque de feedback qui fait que on est là et on fait une tâche, en fait on n'est pas en train vraiment de s'amuser, alors que dans Binding of Isaac, en effet, à la fin t'arrives, t'as des lasers partout, t'as des larmes plus grandes que toi que tu balances sur des ennemis, il y a un feedback immédiat. Là, dans Swords of Ditto, ça manque un peu de pêche. Ça peut être compensé quand on joue à deux, parce qu'on s'amuse, il y a un petit côté, on s'entraide, on avance tranquillement. Ouais. Mais voilà, ça manque de souffle, très clairement. Au début, on a une bonne surprise, on commence à jouer, on se plaît bien, on finit sa première run, puis après on se dit pourquoi je continuerai. Et l'aspect roguelike, justement, le but, c'est qu'on recommence pour qu'on développe quelque chose pour arriver éventuellement à une fin cachée ou un truc du style. Et ça, le jeu vous y invite. Dans Sword of Ditto, il y a une fin cachée, en effet, mais il n'y a rien au niveau de la structure du game design, du dungeon design, qui vous incite à continuer, parce que tout ça est un peu trop plat. Et c'est dommage. Et du coup, on est un peu ennuyé. Et ce qui est embêtant en plus avec ce jeu, c'est qu'on voit exactement ce qu'ils ont voulu faire. Et en effet, tu sors Binding of Isaac comme exemple, à tout à fait juste titre. Binding of Isaac a complètement délaissé le dungeon design. C'est que des salles carrées, général aléatoirement.
Des ennemis, il y a quelques blocs, mais.
Alors que là, il y a une recherche, même dans les salles. Les salles, c'est pas que des salles carrées. Il y a des salles qui sont.
Ouais,
c'est des salles un peu plus complexes, avec des énigmes à résoudre, des énigmes qui ouvrent des portes. Il y a des clés à récupérer, des clés du boss, des objets à utiliser sur certains trucs. Des énigmes à résoudre dans des salles, c'est de là d'où est censé venir en fait l'intérêt de Swords of Ditto, mais même là il n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas encore avancé, ou peut-être qu'il aurait fallu une équipe un peu plus conséquente pour réussir cette prouesse algorithmique finalement, mais là on n'y est pas encore. on s'ennuie un peu dans ces donjons-là. Et pire, on peut rester coincé. C'était mon cas.
On a bien senti. Hein.
Il y a certains.
On a bien senti. Il y a eu comme une frustration hein, sur cette deuxième encre.
Exactement. Donc là, la dernière partie que j'ai fait est réussie pour le coup, parce que j'ai dû me stuffer comme un malade pour réussir, parce que du coup, il y a une encre que j'ai pas pu casser. Mais je suis arrivé dans une salle, deuxième salle du donjon. C'est-à-dire qu'il y a la première salle qui est toujours une salle d'introduction. Deuxième salle, et ben la porte est fermée. J'ai cru voir un bug d'ombre.
Pas d'ennemis.
Il y a des ennemis à tuer, mais je crois que l'interrupteur est dans un mur et je ne peux pas rien faire. Donc je suis coincé dans la salle et je ne peux pas avancer. Donc l'encre est pas cassée. Donc j'ai fait casse la tienne. Je vais en exploration chercher l'autre donjon. Ce que j'ai fait, j'ai cassé l'autre encre, j'ai pexé dans la nature. Je me suis équipé comme un taré pour survivre à la tour finale et j'ai battu quand même la run, même si c'était juste du grind. Et je vais quand même le finir. J'ai envie de voir la fin. Il n'est pas agréable. Jouer en coop, surtout. Voilà, je prends mon exemple, mais ma copine adore le jeu, donc on y joue. En fait, c'est une belle introduction au roguelike, mais c'est pas un très bon roguelike.
Pas très fini. Alors c'est ça. C'est que on sent que dans leur feuille Excel de choses à faire, ils sont arrivés au bout du design graphique.
Mais regarde tout.
au bout de la DA, mais ils sont pas arrivés au bout du reste.
On parlait de Minit il y a quelques semaines. Lui, t'embarques et tu le lâches pas. Enfin,
oui, mais
c'est
Minit,
c'est pas
la même recherche.
Non, mais tu vois, il y a quelque chose qui fait que tu t'accroches et tu vas pas le lâcher. Alors que là, je trouve que tu te perds très vite.
Mais c'est normal. Minit, il dure 2 heures, il est designé de A à Z.
Bien sûr.
C'est pas le même exercice.
On est d'accord.
On peut les comparer, d'autant que je l'ai pas dit, mais il y a une limite de temps. C'est-à-dire que vous avez, on a 4 jours dans le jeu.
Ça représente
50 minutes hors jeu. Mais au bout de ce temps, on vous oblige à aller. Alors, il est moyen de remonter le temps. Quand on est dans les donjons, le temps ne passe pas, ni dans le village d'ailleurs. Mais ça vous met une espèce de pression et qui rajoute au côté roguelike. C'est-à-dire que ta run est limitée. Remonter le temps, ça coûte de plus en plus cher au bout d'un moment. Donc tu peux pas le faire de manière indéfinie. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là. On vise, il y a un temps de jeu, il y a un temps d'une run qui est visé. Et on a envie que le monde change et que tu recommences la partie. Donc il y a cet aspect roguelike. C'est un jeu qui a le cul assis entre deux chaises. Il veut à la fois faire un jeu d'aventure et à la fois faire un jeu de roguelike. C'est pas réussi. Peut-être réussi un jour, mais pour l'instant, ça ne l'est pas.
C'est vrai que le fait de se frotter à Zelda comme modèle même visuel et graphique, tout de suite, t'as des attentes. Ça, quand tu tapes dans ces canons-là, derrière, il faut assurer.
Et il y a des clins d'œil évidents. Enfin, genre, il y a des boutons qui font tomber des rats du ciel, ce qui est un clin d'œil immédiat. A Link to the Past, tout pareil.
Le réveil après, tout ça. Enfin,
voilà, t'as une plage qui rappelle immédiatement Link's Awakening.
C'était un peu tombé des mains aussi.
Complètement. Justement, si on le compare avec Zelda 3, bon, qui est un peu un monument, hein, mais où pareil, tu es embarqué comme ça dans une histoire, et comme vous en avez bien parlé, qui est écrite, où tu sais que tu marches dans les pas d'un scénario, là, c'est ce qui manque. Moi, je me suis vite perdu, et ça m'a gêné, parce que j'étais ébloui par le visuel, par la musique. J'ai vraiment adoré tout l'apparat du jeu. Mais au fond, j'ai pas accroché.
Ça joue presque contre lui, finalement.
Ils sortent un DLC économiseur d'écran.
moi, je le
relancerais. Un économiseur d'écran procédural qui joue tout seul.
Avec la musique. Hein.
Mais avec la musique.
Avec la musique, parce que la musique est bien.
Sérieux. Moi, j'ai leur modèle économique. Hein. Tu vois, à la limite, ils ont pas réussi à captiver le joueur. Mais peut-être, justement, faire.
Moi, j'ai eu des problèmes sur la carte, même dans le design, parfois, de certains passages où je trouvais que justement le côté généré pas aléatoirement mais procédural
selon des
fait
règles
que parfois des fois tu sens des maladresses et moi c'est des trucs voilà où je trouve que ça bloque un peu.
Eh bien, je crois que j'ai dit un truc très méchant en disant qu'il devrait faire
Non, mais
parce qu'il est vraiment très beau.
C'est pas un jeu qu'on peut détester parce qu'il y a une vraie démarche, une recherche, c'est pas réussi.
Je le relancerai pour la musique, moi, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr.
Eh bien, on va changer un tout petit peu d'ambiance parce que figurez-vous que nous sommes en Grande-Bretagne et que le frost est arrivé. C'est l'apocalypse par le froid et qu'il va falloir survivre. Et c'est pas facile. Ça s'appelle Frostpunk.
We bid farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us.
It was hope that pushed us forward.
Alors, il faut parler des antécédents. Les antécédents, c'est 11 bits, mais...
11 bits studio.
Exactement. 11 bits studio, un studio polonais, alors qui est connu surtout, évidemment, pour This War of Mine, hein, et puis son chill... c'est quoi son DLC, je ne sais
Little
plus.
Ones.
Little Ones, oui, voilà, c'est ça. Donc, studio polonais, donc là, qui a un très, très gros titre derrière lui, et là, qui sort Frost. Punk, comment on pourrait appeler ça, City Builder post-apo.
Ouais, c'est ça, un City Builder de survie.
Voilà, Survival City Builder. Et j'avoue que c'est... j'ai trouvé hyper stressant dès le départ. C'est-à-dire que autant quand on commence un City Builder, on est bien. Déjà, finalement, quand on commence un City Builder, la seule question, c'est est-ce que je vais réussir à faire une ville écolo. Ça foire à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on se dit « Non, bon, alors les éoliennes,
alors,
les
on
machins... »
Alors, on ne regarde
mais...
jamais les speedruns de SimCity sur Super NES, où c'est pas du tout le but.
Oui, non, mais non, c'est ça. Mais bon, moi, je parlais de mon expérience. Et là, en fait, on commence et on sait que ça va être chaud. Et
ou froid, plutôt.
Froid. il va faire froid et il va falloir survivre en même temps que développer toute une infrastructure façon City Builder. Et c'est, voilà, c'est stressant, Corentin.
Ouais, ouais. En plus, on doit se dire quand même que les mecs chez 11bit Studios doivent être profondément déprimés ou profondément tristes, machin. Alors que non, je les ai croisés, c'est des mecs cool. Ils sont plutôt détendus, ils sont très souriants, mais ils font des jeux profondément stressants, désespérants.
Ça les aide peut-être à rester optimistes à côté.
Hein. Peut-être bien.
Non, mais ils réussissent dans This War of Mine ou dans là à installer une ambiance en quelques secondes.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on lance le jeu, et ben on est là, on est dans le truc, que ce soit pour This War of Mine ou là, c'est direct. Quoi.
Ouais. Et donc là, c'est direct, c'est Londres est trop froid, on marche vers le nord, alors jusqu'où vers le nord, on sait pas trop, ça peut être très très haut dans le nord. Hein,
déjà, ils vont sur des montagnes, ils sont plutôt vers l'Écosse. Hein, donc,
Je sais pas, on croise quand même des camps américains et tout, donc je crois qu'ils sont vraiment très au nord.
C'est vrai, le frost, la mer est gelé,
c'est ça, ils ont marché très longtemps, ils arrivent dans un cratère, donc on ne sait pas grand chose de ce cratère, de toute façon le lore n'est pas développé immensément, peut-être ça sera le cas dans les futurs scénarios, mais grosso modo on arrive dans un cratère, on a notre petit générateur, notre immense générateur plutôt, dans lequel il va falloir mettre du charbon pour se chauffer, pour ne pas mourir de froid tout simplement. Donc notre cratère, on le voit donc vu du dessus, c'est un city builder, tu l'as souligné, et on va devoir construire notre ville de manière circulaire. Autour de ce générateur. Donc en fait, c'est pas des cases vraiment, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, c'est un peu arrondi.
Des arcs de cercle.
Ça doit avoir un nom, mais voilà. Donc on construit tout autour du générateur, sachant que le générateur a une zone d'effet, et donc par moment, il va falloir construire certains bâtiments dans cette zone d'effet ou non, pour que les gens restent au chaud ou non. Donc c'est tout l'intérêt de Frostpunk. Donc dans Frostpunk, on est dans ce monde post-apocalyptique où il fait très froid, donc par définition, certes, il va falloir gérer les ressources naturelles telles que le bois, le charbon,
l'acier,
mais la nourriture, donc la nourriture crue et cuite, enfin les rations et la nourriture crue, mais aussi il va falloir gérer donc la chaleur. Et ça, c'est une des clés de Frostpunk, c'est quand vous passez le jeu en mode thermique, et donc vous voyez en fait une carte thermique de votre ville, et vous voyez les zones en rouge, les zones en jaune, les zones en vert, bleu, violet, où ça se pèle le cul, et donc il faut trouver le moyen pour que tout le monde, ou en tout cas les bâtiments importants, restent au chaud pour faire son travail, pas tomber malade, pas se faire amputer, etc., etc. Donc évidemment, on arrive au début, je sais plus combien on est une soixantaine, je crois, trentaine de personnes qui arrivent. On a des workers, des travailleurs classiques, on va dire, des engineers qui vont pouvoir prendre des rôles plus spécialisés, comme travailler dans des ateliers où on va développer des nouvelles technologies, ou alors les infirmeries, les centres médicaux pour soigner les gens. Donc là, il va falloir mettre des ingénieurs et les enfants. Les enfants qui ne servent à rien, hein, bien sûr, mais ça peut changer, puisqu'il y a évidemment un arbre technologique qu'on pourra débloquer si on débloque l'atelier de développement, mais on a ce petit arbre politique qui est en bas, et on vous dit assez rapidement « Tu veux pas faire une amélioration gratuite, mais tu es vraiment généreux, dis donc !» Alors tu commences,
parce que alors déjà, le jeu, il est pas généreux. Hein. Ah, il n'est pas généreux. Hein. C'est tu commences, bah, t'as pas de bois. Il faut que tu commences par trouver du charbon parce qu'il faut bien alimenter le machin. T'as quelques rations de bouffe parce que t'as aucune génération de bouffe au début.
T'as
rien qui est généré. Il faut tout trouver. Et par exemple, autour de ton camp, bah, t'as quelques dépôts de caisses de bois que tu pouvais avoir farmé un petit peu. Mais les caisses de bois, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pareil des stocks de charbon, des stocks d'acier. Mais très vite, il va falloir débloquer des scieries, des machins. Enfin, tu sens qu'il y a une sorte d'urgence permanente. Et c'est ça qu'il arrive
c'est
à créer,
confort,
une urgence permanente. Et là, tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en tant que joueur moyen, la première loi que tu prends, c'est le travail des enfants.
Non, t'es pas obligé à tout
ouais, non, t'es pas obligé. Bon, t'es pas obligé.
Sur ma première partie que j'ai vite abandonné parce que j'avais fait trop d'erreurs, je sentais que ça allait être compliqué, que je vais pas passer un bon moment, j'ai recommencé et ça allait mieux. C'était des misclics, des trucs d'incompréhension, c'était pas drôle quoi. Donc j'ai recommencé une fois que j'avais bien compris le jeu, bien compris tout ça. C'était vraiment genre, oups, j'ai cliqué au mauvais endroit, je pensais pas que ça allait
faire
effet.
Faut connaître le genre quand même pour s'y plonger. Parce que vous nous dites là, ça va être.
Honnêtement, moi je connais pas trop le genre et on se ressort très bien. Les tutos sont bien expliqués.
Oui, ça c'est vrai.
L'interface est plutôt claire. On cherche un peu.
Au début, elle a l'air d'être quand même un peu hardcore. Enfin,
ouais, mais comme tous les jeux du genre, j'imagine. Enfin, dès qu'on arrive dans un city builder, il y a beaucoup d'options, quoi.
Aujourd'hui, dans un city builder ou un générateur de parcs à thème ou ce genre de choses, les thématiques sont connues. Donc en fait, quand on arrive dans un nouveau city builder, on a juste l'interface à découvrir parce que finalement, on sait très bien qu'on doit construire des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones industrielles ou ce genre de choses. En fait, là, la difficulté. C'est que il y a ça à découvrir, donc toute l'interface, et il y a les besoins, ils sont pas clairs on connaît pas l'étendue des besoins qu'il va y avoir à gérer, parce qu'il faut gérer quoi ? Il faut gérer les habitations, parce qu'il faut mieux pas laisser les gens dehors. Il faut gérer, comme tu as dit, la nourriture, la chaleur, le bois, l'acier, le charbon, les expéditions extérieures, les chasseurs, les cerfs, les machins. Et c'est vrai que il y a mais c'est la force des city builders, hein, c'est de nous mettre en tant que gestionnaire d'un nombre de paramètres comme ça qui est impressionnant. Mais finalement, en fait, cette urgence permanente, je ne sais pas si ça motive le cerveau, mais enfin, on a une courbe d'apprentissage qui est assez musclée, mais qui
est agréable. Enfin, c'est pour ça que moi, au bout de quelques heures de jeu, je fais non, mais je vais recommencer sur de bonnes bases. Maintenant que j'ai en main le jeu, c'est bon. Maintenant, je suis paré pour la survie, tu vois.
Et un city builder, et comme d'autres, hein, comme les 4X d'une manière générale, les city builders, il y a toujours ça, c'est-à-dire on fait une première partie pour découvrir et après on recommence. Même dans les RPG généralement, quand on doit créer son perso, on joue 4-5 heures et on recommence à zéro et on se crée le perso qui va bien. Et là c'est ça.
Et donc dans Frostpunk, tu l'as dit, il y a cette situation, il y a cette notion d'urgence, et évidemment on va très souvent faire pause. Attendez.
Oui.
Il y a plus de bouffe là. Il faut trouver un. Il y a un problème avec la bouffe. Donc stop, on arrête tout, on réfléchit deux secondes. Et c'est vrai qu'il y a souvent ces moments-là où on se pose et on fait. J'ai un problème, il faut que je trouve une solution vite, sinon je vais avoir des morts sur les bras.
C'est combien de personnes cette communauté que vous gérez c'est quoi? C'est des milliers.
On commence à 40.
Ah oui, c'est plutôt réduit.
À 80, pardon.
À 80.
Ah oui, c'est pas.
Et j'ai terminé ma partie. Alors ça doit dépendre des scénarios, mais moi j'ai terminé à 640 personnes.
Ah oui, c'est pas énorme.
Dans un cratère.
On est dans une petite ville, hein. C'est pas immense. Sachant qu'il y a des événements, c'est-à-dire qu'on peut recueillir des réfugiés, on peut aller chercher des survivants.
D'accord, externe, ailleurs.
Et alors, je vais quand même aborder cette histoire de politique parce qu'on l'avait un tout petit peu abordé tout à l'heure.
Pardon, je t'ai interrompu.
Donc, on a cet arbre de techno. Enfin, c'est pas un arbre de techno, mais c'est un arbre de loi, en fait, qui nous permet, en fait, de faire des lois qui vont changer certaines règles du jeu ou qui vont nous débloquer certaines possibilités. Mais comme tu l'as dit, Erwan, c'est vrai que cet arbre gratuit, faut se méfier. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a un trade-off à un moment donné.
C'est que c'est toi le produit.
Et c'est toi le produit. En l'occurrence, le produit, c'est le mécontentement des gens la gestion de leur espoir, en fait. Donc, on va arriver, on va dire, les gars, alors moi, en l'occurrence, c'est les premières lois que je prenais. Alors, toi, c'était le travail des enfants. Très bien, Erwan, je note. moi, c'était plutôt les emergency shift, donc qui permettent, en fait, de faire travailler 24 heures d'affilée un bâtiment.
Alors, il faut
au détriment
bien avoir...
de leur santé.
Nous enregistrons donc cette émission 2 jours après le 1er mai, fête du travail des travailleurs.
Célèbre à notre manière.
Voilà. Alors donc, moi, j'ai très honte, hein, mais j'ai très honte. Mais c'est un peu. Les stibulders, c'est voilà. Moi j'avais, généralement, bah là, on met les pauvres auprès des zones industrielles, enfin, ce genre de choses.
Mais voilà, donc on prend des choix durs, des choix difficiles, mais des choix parfois nécessaires. En ce qui me concerne, l'emergency shift, je l'aurais pas eu, je serais mort, mais des milliers de fois. Parce que quand je disais aux ingénieurs, je suis désolé, vous allez passer la nuit sur cette amélioration de générateur, sinon tout le monde va crever de froid. Et ça peut se comprendre, tu peux te le justifier. Ouais. Parce qu'il y a une urgence, il faut pallier à l'urgence, Et voilà. Et toi, tu fais bosser les enfants, parce que oui, les enfants, si tu les fais pas bosser.
Bon, non, mais arrête de le répéter, c'est pénible.
Il faut les mettre quelque part. Arthur au boulot, parce que sinon, il faut construire un abri pour les enfants, ça coûte cher.
En vrai,
souvent, ce qui se passe, le choix général, c'est soit vous avez un choix qui est facile, qui vous facilite la vie immédiatement, mais qui va augmenter le mécontentement, ce qui peut vous faire perdre la partie si vous êtes trop de mécontentement, parce que les gens peuvent littéralement vous renverser, soit faire perdre de l'espoir, qui est en fait une jauge qui va être importante à certains moments clés du scénario. C'est-à-dire que si l'espoir est trop bas à certains moments, par exemple, il peut y avoir des groupes dissidents qui peuvent se créer, ou alors les gens vont, ou alors il y a certains passages scénario où tu vas pas avoir accès à certains bonus, ce genre de choses. Donc il faut toujours avoir la courbe de mécontentement et la jauge d'espoir, donc mécontentement basse et espoir haute, pour réussir à garder ta cité fonctionnelle et pas se prendre des coups du sort, de destin, de politique ou ce genre de choses. Erwan a choisi une solution de facilité, on va dire, immédiate, qui était là pour répondre à une urgence.
Les enfants.
Sur les enfants. Mais en vrai, tu peux aussi décider de...
Non, mais j'ai recommencé d'ailleurs. Non, mais j'efface ma partie.
Non, mais
je recommence.
J'explique.
Non, mais je recommence. Non, je recommence. Je culpabilise.
Ce choix-là, en réalité, il va se retrouver plus tard sur d'autres sujets. Par exemple, est-ce que je fais un bordel? Parce que le bordel, il va baisser le mécontentement, mais il fait aussi baisser l'espoir. Il y a toujours des trade-offs, il y a des machins comme ça. Par exemple, les enfants au début, donc tu peux soit les faire travailler, et ça te débloque en effet de la force de travail qui permettra de réussir à faire certaines choses.
Non, mais en plus, ils sont sournois parce qu'ils disent travail des enfants. Alors déjà, t'es à 80
safe.
Personnes,
safe.
Voilà, dans des travaux sans danger. Attention, ils bossent à la cantine, quoi. Mais bref.
Et plus tard, on peut débloquer le avec danger. Mais du coup, on est là. Et on doit faire des choix assez terribles. Mais ces choix-là, en fait, si tu prends les choix difficiles, enfin, si tu prends les choix un peu faciles comme ça, tu passes à côté du shelter pour les enfants, enfin, du l'abri pour les enfants, qui permet ensuite de les faire travailler avec les ingénieurs qui vont bosser plus vite, etc. etc.
Donc tu peux encore te regarder dans un miroir
c'est choix facile, résultat immédiat mais léger, mais tu peux aussi viser le futur, dire bon, ce coup-là, on fait ça, et il faut construire un abri, et ça coûte de l'argent, et on va souffrir un peu maintenant, mais plus tard, ça sera cool parce que les ingénieurs iront plus vite. Et en fait, plus tu vas aller dans les lois, Et au bout d'un moment, on va débloquer soit l'arbre de l'autorité, soit l'arbre de la religion pour pallier à un moment donné à un problème donné. Et ça te débloque deux nouveaux arbres de loi. Et en fait, ces arbres de loi, pareil, ça va te donner des lois difficiles à prendre. Genre, est-ce que je construis une prison? Est-ce que je fais un centre de propagande? Est-ce
que
je deviens un dictateur? Est-ce que je tue les gens? Enfin, tu vois, il y a ce genre de choses. Et en fait, on peut finir le jeu comme ça. Et à la fin... Enfin, grosso modo, on se regarde dans une glace et on dit bon, qu'est-ce que ça m'a coûté pour arriver à là, et le jeu vous le fait savoir d'une manière assez
ils sont bons, 11 bits studio.
Ils vous font le point sur ce que vous avez fait quand même de manière un peu sournoise quand même, genre
Moi j'ai senti
à toute fin, mais voilà, on peut essayer de faire sa ville essayant de garder ses valeurs, mais le jeu fait tout pour que vous craquiez et que vous alliez faire des choix difficiles. Frostpunk, c'est cool, c'est scénarisé, hein, faut le dire, c'est pas libre, même si on peut faire sa ville libre, j'imagine. Et il y a plusieurs scénarios, il y en a plusieurs qui vont arriver dans quelques semaines. Ils ont annoncé de nouveaux scénarios à l'arrivée. Et je recommande, surtout pour moi qui ne joue pas du tout au City Builder, j'ai passé un très bon moment avec Frostpunk. Ouais. Voilà.
Et moi, je veux juste rappuyer sur un point. Une des originalités je sais pas si on peut appeler ça du level design pour du City Builder, mais c'est cette carte en rond qui est énorme. On peut créer des chemins. Enfin, cette interface comme ça circulaire autour du générateur est symboliquement et en termes de game design une excellente idée.
Alors par contre, la gestion des rues, je veux plus, hein. Elle est horrible. La gestion des rues, des fois, rue pas connectée. Comment ça, rue pas connectée? Bah oui, il manquait un pixel entre les deux rues. C'est bon, quoi. Le jeu t'arrête.
On va enchaîner, hein, pour pas faire une émission de 2 heures.
c'est bien parti pourtant.
mais non, on va y arriver. On va enchaîner avec Streets of Rage. Alors, c'est toi, Patrick. C'est toi, Patrick. Un quoi? Un beat'em all? Old school?
Ah, moi, j'entendais.
Avec du pixel?
C'est ces voix digitalisées syncopées là, qui crachent leur direct. Bah oui. C'est fabuleux. En fait, je suis tombé sur ce jeu complètement par hasard.
Non,
un soir,
mais c'est ce jeu qui t'a cherché. C'est lui qui t'a cherché, Patrick.
À 1h du matin, j'étais sur le store de la Switch qui commence à être mais noyé de titres. C'est vrai que toutes les semaines, il y a énormément de jeux qui arrivent, donc on ne les voit pas tous passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je tombe sur ce titre. Alors, déjà, Beat Them Up, moi, ça m'intéresse parce que c'est un genre moi, auquel je suis resté attaché. Hein, les Street of Rage, les Final Fight. Enfin, ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu quelques-uns plus récents. Mais bon, c'est plus un genre très représenté aujourd'hui. Et puis une baseline qui tout de suite m'accroche l'œil, c'est Video Games versus Horror Movies. Bon, voilà, tout de suite. Le Streets of Rage, déjà, le clin d'œil dans le titre est assez évident. Donc je m'y suis évidemment investi pour pas trop cher, je crois qu'il était même pas à 8 euros. Donc voilà, c'est pas.
Récemment, c'était le Mother Russia Bleeds de.
Oui, qui était sorti.
Volver,
oui,
chez les Français.
C'est le même genre, du coup, c'est le même genre de Beat'em All.
C'est du. Ouais, Beat'em All.
En ligne droite, mais avec une notion de profondeur.
C'est ça, ouais. Ouais, alors plus orchestré autour de pièces différentes. Après, on n'est pas sur le même univers graphique, hein, parce que là, on est vraiment sur un. Donc, on est sur du beat'em up avec un look rétro. Alors, look rétro qui peut être clivant, on va dire. Il est pas très, il est moins coloré qu'un Street of Rage qui était plein de couleurs avec des néons en tous les sens. Là, on est sur quelque chose de plus grisâtre. Moi, qui m'a rappelé, c'était le phénomène un peu des conversions sur Amstrad & Co, des jeux d'arcade. À l'époque, on avait souvent les bornes d'arcade qui était super reluisante. Et puis on avait des fois des portages comme ça sur les machines à la maison qui étaient un petit peu moins colorées, un petit peu plus un peu plus roots visuellement. Mais en tout cas, c'est cohérent avec l'ambiance. Et puis donc voilà, déjà le jeu il a une physique qui est plutôt étonnante, qui est plutôt marrante, gameplay qui est plutôt essentiel, basique. Hein. On a scénario, voilà, une convention de jeu vidéo, des personnages qui se retrouvent coincés par une invasion de zombies évidemment et d'autres monstres venus de films. Droite à gauche. Et puis là, on lance la partie, on choisit son personnage parmi quatre au début, qui sont vraiment les stéréotypes de personnages de beat'em up. Et on se lance là-dedans. Et là, en fait, on se rend vite compte que le jeu, c'est une foire au clin d'œil dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est blindé de clin d'œil, aussi bien au cinéma des années 80-90 qu'aux jeux d'action de l'époque. J'ai noté, il y a des clins d'œil à Ghosts and Goblins, Zelda, La Mouche, le film de Cronenberg, Alien, Jason de Vendredi 13. Enfin, c'est dans tous les sens, ça n'arrête pas. C'est plutôt marrant quand on est attaché à ces univers pop d'horreur et de jeux vidéo et horreur. Donc ça marche bien. Et puis on s'amuse bien, c'est-à-dire qu'on commence à jouer. Hop, il y a pas mal de bastons, il y a beaucoup de monstres qui viennent à notre rencontre. Visuellement, ça marche bien. Enfin, moi, ça m'a plu parce que, encore une fois, ça faisait appel à mes références de l'époque. Et puis, il y a un look que moi j'aime bien, que je pense qu'il peut trancher. Certains vont pas aimer parce que c'est pas très coloré, mais moi je trouve que ça marche bien. Puis ces voix digit qui sortent dans tous les sens, on est vraiment dans l'ambiance arcade. Donc ça, c'est pour la forme. Moi j'ai bien aimé. Et puis on commence une partie, on avance, et puis on se rend compte que le jeu est plus malin qu'il en a l'air, en fait. C'est-à-dire que sous sa patine un peu pixel art, comme on en voit beaucoup passer, finalement on se rend compte qu'il se passe un truc. C'est-à-dire que j'ai lancé la partie, j'arrivais pas à gagner, je me faisais laminer, et en fait on se rend compte que le jeu est basé sur un système de en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il redonne cette notion qu'on avait à l'époque sur les bandes d'arcade, où on avait ces pièces dans la poche qui étaient limitées, hein. Ouais. Donc quand on arrivait à la fin de sa vie ou de ses crédits, il fallait remettre une pièce si on l'avait pour continuer la partie. Et là, dans le jeu, en fait, il y a un système de monnaie en interne dans le jeu qui fait que pendant la partie, concrètement, on va bastonner, on bat des boss, des ennemis, etc. Et on va ramasser de la nourriture pour garder son énergie. Alors ça, c'est très classique, ça on l'avait dans tous les Street of Rage, etc. C'est basique. La petite différence, c'est que là, plus on va taper ces ennemis et les battre avec des finishim, vraiment, là, c'est évidemment du Mortal Kombat, il y a beaucoup de clins d'œil à Mortal Kombat. Là, il y a un des personnages principaux qui a le truc de scorpion pour tirer sur les personnages. En fait, on se rend compte qu'on récupère de l'argent, des crédits. Et en fait, c'est avec cet argent qu'on va accumuler au fur et à mesure de la partie, qu'on va pouvoir se payer le crédit pour continuer lorsqu'on arrive au game over.
Pour le continue, en fait.
Exactement. Et on rame pas mal pour réussir à avoir le pactole qui va nous payer le crédit. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve cette sensation d'avoir cette pièce dans la main où, ça y est, là, j'ai de quoi me payer le crédit en plus pour continuer. Donc, ça, c'est, on retrouve vraiment cette sensation qu'on est plus ou moins oublié. Ouais. C'est vrai que la plupart de ces jeux-là, aujourd'hui, où on a les crédits limités, c'est pas très compliqué. compliqué. Avec une bonne, un bon niveau de difficulté. Moi, je conseille d'ailleurs de le faire plutôt en facile au début pour comprendre le gameplay. En gros, on tape avec, il y a 2-3 boutons, c'est très simple. Le gameplay est vraiment facile à prendre en main. C'est de la baston très basique. Je crois que les développeurs ont dit avoir voulu s'inspirer de Smash Bros. Pour avoir un gameplay facile à prendre en main. En revanche, quand on veut vraiment accumuler de l'argent, l'argent on récupère en faisant des finishing systématiques sur les ennemis. Il faut buter l'ennemi au moment où il commence à être faiblard, paf, là on actionne, on a la voix digite qui dit ouais bravo finishing, et là on récupère le plus d'argent et c'est là qu'on va pouvoir justement à la fois s'acheter des crédits en cas de problème face à un boss, mais aussi des améliorations de ses personnages. Bref, on se rend compte que le jeu, sous ses faux airs très simplistes et très vintage, en fait, il a une vraie proposition. On sent que les développeurs ont vraiment compris ce rapport qu'on avait à l'époque avec la pièce dans la poche qu'il faut et que voilà, les crédits se gagnent en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et puis, finalement, il y a un vrai niveau de difficulté qui se met en place. Il faut vraiment gérer, récupérer l'argent sur le terrain, sur le champ de bataille. On peut jouer à deux encore. Donc là, on retrouve vraiment les mécaniques de l'époque. Encore une fois, ça foisonne de monstres dans tous les sens. On peut choisir le sens de, comment dire, dans lequel on va explorer le jeu. Donc on va avoir des niveaux dont l'exploration va changer si on les fait en première partie, deuxième partie du chemin qu'on va prendre. Donc tout ça évolue. En fait, il y a une vraie rejouabilité. Vraiment, c'est un jeu que j'ai depuis quelques jours. Maintenant, j'y joue très fréquemment. Vraiment comme une borne d'arcade qu'on va relancer de temps en temps. Parce que, encore une fois, visuellement, au niveau des sons, il y a plein de gimmicks sympas. Enfin, c'est vraiment un jeu plaisant à jouer. Il y a vraiment un univers très cool. Et puis, il y a un vrai challenge. Encore une fois, il faut vraiment prendre le temps de le maîtriser. On se rend vite compte qu'il ne faut pas juste bastonner. Il faut vraiment placer ses finishims, ses coups spéciaux. Il y a 4 personnages, on peut en débloquer 2. Ils ont chacun leur gameplay différent. Donc, on peut aussi rejouer avec des personnages différents. Ça va apporter des vraies distinctions dans la façon d'appréhender les combats.
Easy to handle, hard to master.
Exactement. On est vraiment là-dedans. Oui. En plus, voilà, c'est un jeu qui vaut 8€, donc moi je le recommande vraiment pour les nostalgiques de cette grande époque. Il y a un côté gore que j'ai pas souligné, il y a quand même un vrai côté trash, je parlais des monstres, etc. Et je pensais aussi à Nick of Isaac, au niveau de l'horreur, il y a un côté noir, sombre, mais qui passe parce qu'on est sur du pixel, donc finalement ça passe, c'est pas sanguinolent, c'est sûr sanguinolent, mais ça passe parce qu'il y a un côté cartoon. Le jeu est assez... En tout cas, moi je le vraiment très très bonne surprise, en tombé par hasard comme ça, il a pas fait énormément de bruit, mais il est sur PS4 et sur Switch. Il est pas très cher, et vraiment moi je recommande si vous êtes nostalgique de ce grand genre de l'époque, un peu tombé.
Tu as eu le bon réflexe de donner le prix de Streets of Rage, pour info, on n'a pas donné le prix des autres. Donc The Sword of Ditto c'est 20€ et Frostpunk c'est 30€. Voilà. Et ben on va terminer parce que je voulais peut-être en parler, enfin j'avais prévu d'en parler la semaine dernière, on avait un programme assez chargé. Et puis après les semaines prochaines. Petite info, pas d'enregistrement la semaine prochaine. Donc pas de silence on joue la semaine prochaine. Nos amis des croissants ont le droit de prendre des vacances. Ils sont fatigués, mais vous pouvez pas savoir comme ils travaillent trop.
Je tape avec mes cernes sur le clavier.
C'est
plus facile maintenant.
C'est plus facile. Donc ils vont se reposer. On se retrouve donc dans 2 semaines de notre côté, et on les retrouve aussi dans 2 semaines. Bref, je voulais donc en parler maintenant. Ça s'appelle Healer's Quest.
When evil forces awaken in the darkness, the world needs a team of heroes. But sometimes that team is just a bunch of noobs and jerks. And only one person can save them. Their healer!
Healer's Quest. Healer's Quest. Alors, Healer's Quest, c'est quoi ? C'est le jeu de Pablo Coma, donc unique créateur aux commandes de ce jeu-là. C'est un Belge. Le studio s'appelle Rablo Games, mais il est tout seul, donc on va retenir Pablo Coma. Et c'est un jeu financé. Alors, financé, c'est ce genre de financement Kickstarter, qui se multiplie quand même dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, on est bien loin des scores de Swery et d'autres jeux un peu qui ont dépassé le million de dollars et tout ça. Non, lui, il demandait 8 000€. Il a eu 8 200€ pour faire son jeu avec une démo jouable. Et donc, voilà. Alors, Healer's Quest, c'est quoi ? Est-ce que vous avez déjà joué un healer ? Soigneur ?
Non, je joue pas au MMO, malheureusement.
Voilà. Alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui savent ce que c'est et les gens qui savent pas. Parce que être soigneur. Moi, j'ai été soigneur. J'ai été soigneur dans Dark Age of Camelot. J'ai été
Sur Goa. Sur Goa.
Exactement. Dans World of Warcraft aussi. Voilà. Alors, soigneur, c'est quoi? C'est le personnage indispensable dont on ne peut pas se passer. Hein. Il faut bien savoir que pour trouver des groupes, par exemple, dans les MMO, si t'es soigneur, t'es sûr de trouver
c'est
un groupe.
C'est le Sam dans une soirée un peu.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que si on perd, c'est toujours de ta faute.
Oui.
C'est ça.
Et
c'est
si
que,
on gagne, c'est jamais de la tienne, par contre.
Et si on gagne, t'as les gens qui font les DPS, les tanks qui se prennent les coups et tout ça. Bah, ouais, t'as vu ce combat. Ouais, j'ai tenu face à ce mec-là. Ouais, je l'ai tué. J'en ai tué 5. J'ai fait 12 milliards de DPS et tout ça. Et toi, t'as rien. T'as aucune stat. T'as juste gardé tout le monde en vie, quoi.
C'est l'ambulancier
sur le. T'as rien à faire. Ouais, j'ai réussi à garder l'aggro sur moi et tout ça. Non, mais les gens, ils discutent. Et toi, t'as aucune stat. Par contre, si tout le monde perd, si ton groupe perd, bah, c'est toi.
Ouais,
c'est-à-dire que t'as pas soigné. L'indispensable.
C'est un gras.
C'est un gras, mais c'est indispensable. Et voilà. Et Healer's Quest, c'est ça, c'est tu joues le healer. Donc tous les autres personnages alors on trouve le tank, le magicien DPS, le barbare DPS aussi, et l'archer distance. Voilà. Et toi, t'es healer derrière. Donc c'est le groupe de 5 personnages ultra classiques dans les MMO, avec les 3 rôles distincts. Et voilà, il va falloir soigner tout ce monde-là. Et en fait, on joue à Healer's Quest pourquoi ? Bah pour avancer. Donc c'est un RPG, enfin c'est fabriqué comme un RPG. Il y a de l'XP, il y a des objets, du loot, ce genre de choses.
Mais c'est en 2D ?
C'est en 2D. Ah. C'est en 2D. Et en fait, c'est une série de dialogues. On avance dans une histoire où les dialogues sont ultra référencés. Dès la création du personnage, dans son look, on choisit est-ce qu'on a une robe de JRPG, de RPG occidental, une barbe de hippie, le chapeau ça craint, enfin ce genre de choses. On va se choisir un nom, mais il doit finir en Y. C'est pour que tout, vu que tous les personnages vont se finir en Y, ça donne un côté un peu ridicule à l'ensemble du groupe. Le karma, est-ce qu'on va être bon, est-ce qu'on va être méchant, est-ce qu'on va être victime? Victime, on va avoir la possibilité de choisir fils à papa qui va avoir du bonus de pognon et ce genre de choses. Si on choisit bon ou méchant, tous les dialogues vont changer du tout au tout dans l'aventure parce que évidemment on n'a pas le même rapport à ses petits camarades.
Mais on joue seulement sur les dialogues, c'est un VR?
Non, alors on joue que... Alors le gameplay, c'est un gameplay de combat, c'est-à-dire qu'on va avoir ses sorts de soins, on a 4 slots de sorts où on va avoir les sorts classiques du healer, c'est le soin de base, le super soin, enfin le soin de groupe, la guérison des maladies, des debuffs en fait. Le meditate, évidemment, parce que évidemment on a une mana limitée, donc meditate pour regagner sa mana plus facilement. Et puis les sorts de buff qui vont être des sorts soit de plus de force, soit de plus de soit d'armure,
résurrection,
etc.
Non, il ne fait pas de résurrection.
Et le sort de résurrection, mais le problème, c'est qu'on n'a que 4 slots. Hein, donc, il faut bien faire un choix avant chaque combat.
C'est comme dans Pokémon.
C'est un peu ça le souci. Évidemment, avec une courbe d'amélioration de chaque sort, de chaque type de sort qu'on peut améliorer en passif, actif, etc. On se rend compte que dans les combats, là où le jeu est très fort, c'est qu'on finit par jouer comme un healer de tout MMO, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du combat et on gère des barres de vie.
Eh oui.
C'est ça le...
À part tu gères des cooldowns et des barres de vie.
Non, mais c'est ça, tu gères des cooldowns, ta mana et des barres de vie. Tu ne regardes rien d'autre à l'écran. Et là, c'est fort parce que finalement, on récupère la substantifique moelle du rôle du healer.
Est-ce
regarder des barres de vie descendre, essayer.
Est-ce qu'il vaut mieux pas jouer un vrai MMO, quoi, être carrément sur le terrain de bataille?
Alors,
t'es tout seul finalement.
On est tout seul, mais...
Il y a une comédie derrière.
Ouais, exactement.
C'est un peu méta, il faut avoir connu.
Il faut avoir connu, parce que
sinon,
toute la série de dialogues, c'est référence, pop culture, web culture, culture RPG, et ce genre de choses, avec des clins d'œil, énormément de clins d'œil à tous les autres jeux de l'univers, avec des trucs de... Non mais quel jeu de merde. Non mais c'est juste une démo, la version finale sera un super monde ouvert. Enfin, ce genre de choses. Avec énormément... je trouve bien écrit. Alors, je pense. Alors, il est disponible en français, en VF et en VO. Je pense que le créateur est francophone, donc les dialogues sont plutôt très bien écrits directement en VF. Moi, j'ai trouvé le truc très agréable. Il y a cette mécanique de RPG finalement qui t'accroche parce que il y a énormément de loot. Tu vas pouvoir armer tes personnages, leur donner des anneaux magiques, des choses comme ça. Il y a des variations de gameplay où on va se retrouver à gérer la santé de un seul personnage dans un défi particulier. Ouais. Enfin, il y a les scénarios.
Ça a l'air riche pour un jeu fait par une personne, je trouve.
Extrêmement riche. Ouais, la première rencontre avec un dragon m'a fait hurler de rire. et puis la suite, enfin, tu vois, t'as la première quête avec les bandits aussi. La première random encounter sur la map.
Ils veulent ta thune.
Mais qu'est-ce que vous foutez là? Non, mais nous appelez pas random encounter, on est là. Mais vous rendez pas compte depuis le temps qu'on prépare cette embuscade.
C'est drôle.
C'est que des trucs comme ça qui jouent vraiment sur tout de la mythologie, surtout le gameplay RPG classique, et qui le dérive un peu.
Arwan, j'ai une question. Est-ce que tu penses que ce jeu-là est mieux que ce que sera Noble jeu vidéo?
Est-ce que je peux donner un... Non, j'ai pas suffisamment suivi la somme monumentale gagnée par ce truc et le projet en face, je ne sais pas.
C'était quoi le but? C'est peut-être de régler ses comptes aussi à ce créateur avec ce rôle qu'il a peut-être tenu lui-même dans les jeux, j'imagine.
Ah, ce mec a été healer en MMO.
Voilà,
ça,
il règle ses comptes,
c'est sûr et certain.
Ou alors il en a vu assez, peut-être.
Et les stéréotypes du temps, du barbare et tout ça, sont vraiment très drôles, avec évidemment un côté méta où tu ne sais plus si c'est le joueur qui est derrière le barbare ou derrière le joueur qui parle ou le personnage lui-même à chaque fois.
C'est marrant,
et franchement le truc est assez énorme. Le design tout en couleur pastel, assez simple, assez cartoon aussi, mais plutôt
cool.
Moi, je le trouve vraiment sympa. C'est une quinzaine d'euros. Alors, je vais pas arriver au bout, je trouve. Enfin, il semble relativement vaste quand même, un certain nombre de jeux. Moi, je dois être à 4-5 heures.
Et t'en vois pas encore.
Est-ce qu'il y aura des suites sur d'autres rôles, d'autres personnages, d'autres familles?
Non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Les autres sont des cons.
C'est celle-là qu'il fallait faire.
Le healer, c'est le rôle ingrat, mais qui a toujours été ingrat.
C'est le mec qui soupire, quoi.
Non, mais c'est ça.
Encore lui, ah.
Non, mais il please, quoi. Enfin, rien que cette phrase disent les personnages,
il please,
c'est ce qu'on retrouvait dans tous les chats quand tu joues healer. T'as toujours un DPS à la con qui vient de se prendre une boule de feu random. Il please. Voilà, mais ouais, t'as plus de mana, tu viens de soigner le tank, tu peux plus rien faire, et le mec il crève et il t'en veut après.
Donc, ouais, après il y a des gènes.
C'est ça.
C'est gênant, quoi.
C'est très bien. Healer's Quest. Donc on a encore bien des. Mais je persiste à dire.
On reste dans la même zone à chaque fois.
Ouais, 1h20, mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne à 1h. Mais bref.
Faut mettre un jeu en moins. Hein,
voilà. Si vous êtes resté là, je peux vous le dire aussi. C'est un peu un teaser. On est en discussion et a priori, on a trouvé une solution pour pérenniser et pour recommencer la saison. Ce sera la saison 12.
Faut plus qu'on te compte plus.
La saison 12 de Science en Joue. En septembre. Enfin, on reparlera quand on sera avancé de ce côté-là. Bref, c'est fini pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Un podcast, tiens, pour changer des séries Netflix. Donc, Cozy Corner. Est-ce que vous connaissez le Cozy Corner?
Mais oui, Mehdi et Moguri.
Exactement. Donc, c'est Kevin Sicurel et Mehdi Campras qui, après qu'il soit parti de No Life, après qu'ils sont partis de No Life même, ont décidé de faire un podcast ensemble parce qu'ils sont extrêmement copains, ils s'entendent extrêmement bien. C'est une vraie bromance telle qu'on... Ouais, maintenant, on a découvert... La presse généraliste a découvert le mot de bromance depuis la visite de Macron.
Non, mais c'est
Washington.
C'est un super binôme qui a super bien fonctionné à No Life et qui marche, est drôle.
Enfin, quand ils sont tous les deux, ils sont naturellement drôles, et donc ils font un podcast semi-culturel, semi-humour, semi-jeu vidéo, semi-culture geek. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça. Grosso modo, ils parlent de sujets chacun leur tour qui les ont marqués, mais ça peut être un truc débile. Ça peut être hey, je suis allé à Londres hier, waouh, trop bien, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Tout comme j'ai joué à Frostpunk. En l'occurrence, le dernier numéro, il parlait de Frostpunk également. Donc ça date depuis fin 2016. C'est des longs podcasts. Hein. Tu te plains de nos podcasts d'1h16, 1h20. Là, ils sont entre 2 et 2h30, mais ils sortent tous les 15 jours. Voilà. Mais bon, moi, entre nous, les croissances, des fois, ça peut être stressant et beaucoup de travail. Cozy Corner, ça détend, c'est super. T'es là, t'es vraiment assis avec eux, limite. Tu prends une bière, t'écoutes Cozy Corner.
Mais ils remplissent la proposition. Finalement, ouais. La proposition, c'est Cozy Corner, c'est le comme son nom l'indique.
Finalement. C'était bien, t'es avec eux, ouais. T'écoutes, c'est intéressant. Même si c'est des sujets qui t'intéressent pas, ils vont quand même faire des vannes. Ils seront souvent d'accord, mais il y a des moments où ils sont pas tout à fait d'accord. Là, récemment, ils ont parlé de The Push sur Netflix. Mm. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est une émission qui est très controversée. Ils étaient pas d'accord. Mais du coup, c'est super intéressant. En plus, il y a des vannes qui se construisent. Il y a univers qui se construit avec des trucs qui reviennent. Par exemple, Médoc revient sur des choses qu'il a fait plus jeune et il regrette. Et pour faire amende honorable, il fait manger des bonnes choses à Kevin. Tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Donc il raconte un truc dont il a honte et après il fait manger un truc à Kevin pour faire amende honorable. Et Kevin dit bon, c'est bon, tu es pardonné à chaque fois. C'est voilà, ce genre de choses. On est sur des petits délires sympas. Et c'est gratuit, c'est sur SoundCloud. Et allez-y, franchement, c'est détente, c'est trop bien. Allez-y, allez-y. Cozy Corner.
Patrick.
Bah, quand je ne joue pas aux jeux vidéo, je lis des bouquins sur le jeu vidéo. Et en ce moment, je lis ce petit bouquin, Speaking Nation. Alors c'est sous-titré A Tribute to the Golden Age of British Gaming. C'est signé Dan Whitehead, qui est un journaliste qui est notamment officier chez Eurogamer. Alors c'est intéressant parce que lui se penche sur les années Spectrum en Angleterre, qui étaient des années foisonnantes. Et en fait, il accorde une, deux pages sur des titres vraiment des ovnis de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait vraiment en Angleterre des innovations en tous les sens, surtout des jeux très typés, très, très spéciaux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils replacent les jeux dans ce qu'ils ont pu apporter, dans leur pérennité. Par exemple, ils parlent de Turbo Esprit, qui était une sorte de prédécesseur à GTA, avec cette ville ouverte. Bah, ils parlent des Jet Set Willy, un jeu très british aussi. Puis après, moi, il y a des jeux que j'adore, hein, des vrais... des vrais omnis, le Rocky Horror Picture Show en jeu qui est quand même...
Ah, ça existait, ça?
Oui, monsieur. Wow. Oui. Frankie Ghost Hollywood aussi. Enfin, voilà, des vrais omnis de l'époque en Angleterre, parce qu'il s'est passé énormément de choses.
Bah, ouais.
Notamment sur le Spectrum, qui était la bécane star en Angleterre. Et voilà, les développeurs se lâchaient complètement. Mm. Et donc, ils ont amené plein d'univers complètement barrés.
Il y a eu des pics de vivacité comme ça, de la créativité anglaise.
Oui, mais clairement.
Il y a eu l'époque Rare.
Bien sûr, qui était un petit peu... Bah, ou les débuts de Rare aussi. Mm. Mais en tout cas, voilà, les années Spectrum sont fascinantes à regarder parce que c'est vraiment typique, c'est unique ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là. Donc voilà, des jeux qui méritent d'être découverts.
D'accord.
Et moi, je vais vous parler juste très rapidement d'un roman. Ça s'appelle Spin. C'est écrit par Robert Charles Wilson. C'est sorti en France en 2007. C'est un roman de SF qui est. Alors, c'est le premier. C'est un de ces romans où tu es content de savoir que c'est le premier tome d'une trilogie parce qu'il t'en reste plein à lire derrière. Ouais. Genre, j'ai pas encore fini. Je suis presque à la fin. C'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment très, 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 très bien. L'histoire, c'est à notre époque ou un peu avant. En fait, il y a trois gamins qui s'amusent. Alors, ils se connaissent bien, Jason, Diane, et puis le personnage principal, Tyler, qui sont voilà ados et tout ça. Et puis un jour, ils sont en soirée. Il y a une fête, la fête des grands dans la grande maison et tout ça. Et puis ils s'amusent. Et puis Tyler regarde le ciel et d'un moment sur l'autre, les étoiles disparaissent. Il n'y a plus d'étoiles dans le ciel.
La matrice.
Et voilà. Et s'ensuit plein d'explications, plein de choses. Le temps avance. Ils grandissent dans ce monde sans étoiles. Et puis il n'y a pas que sans étoiles. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Je vais pas du tout vous spoiler le reste. En tout cas, c'est très 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 bien. Ça marche bien. L'univers fonctionne bien. C'est très bien écrit, bien traduit en tout cas. Et c'est le deuxième. Je vais enchaîner après avec Axis et Vortex, les tomes suivants. Et je suis très content que ce soit une trilogie. Voilà. Spin de Robert Charles Wilson, c'est en format poche. Voilà, merci à tous les deux. Et puis du coup, comme on l'a dit, pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 15 jours pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.